Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, phtalate, bisphénol A ou encore parabène, ces noms un peu barbares, on les retrouve dans les composants de plastique de bouteilles, d'emballages alimentaires, dans certaines encres, dans les produits cosmétiques ou encore dans les ciments dentaires. Longtemps utilisés dans notre vie courante, ils sont suspectés depuis quelques années de provoquer des cancers du sein, de la prostate, des infertilités, d'avoir des incidences sur la croissance, le développement et le comportement, d'être, bref, des perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, l'utilisation en France du bisphénol A devrait disparaître dans les emballages alimentaires dès 2014 et dès 2013 pour certains produits concernant la puériculture. Les phtalates sont interdits depuis 2005 dans la fabrication de jouets pour enfants et d'articles de puériculture, et cela au niveau européen. Et depuis 2011, une loi adoptée par l'Assemblée nationale vise à interdire l'utilisation des phtalates et des parabènes, mais cette loi n'a pas encore été promulguée. Alors tout d'abord, à quoi nous servent ou nous servaient ces composés? À partir de quel seuil d'exposition sommes-nous sensibles à ces produits que nous utilisons et manipulons tous les jours? Et peut-on les remplacer par d'autres qui ne soient pas nocifs pour la santé? Pour répondre à nos questions, Claude Monneret est avec nous au studio. Claude Monneret, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes pharmacochimiste, ancien interne des hôpitaux, directeur de recherche émérite au CNRS, membre de l'Académie nationale de pharmacie. Vous vous intéressez de près à ces perturbateurs endocriniens et vous avez notamment participé à l'élaboration du rapport de l'Académie nationale de médecine, daté de novembre 2011, qui s'intéresse plus particulièrement aux corrélations entre cancer et perturbateurs endocriniens. Et j'ajoute que vous participez, pour ce qui est de l'Académie nationale de pharmacie, à un groupe de travail sur, justement, les parabènes dans les médicaments. Et nous y reviendrons au cours de cette émission. Ces perturbateurs endocriniens sont des produits chimiques qui interfèrent avec les hormones sexuelles. Dans cette émission, nous allons nous pencher plus spécifiquement sur les parabènes, les phtalates et le bisphénol, si vous le voulez bien. Mais il existe d'autres produits suspectés d'être des perturbateurs endocriniens que l'on retrouve dans certains pesticides ou dans des peintures, dans le tannage des cuirs. Est-ce qu'on connaît le nombre exact de perturbateurs endocriniens aujourd'hui, Claude Monneret?
Écoutez, franchement, je ne sais pas. Je sais qu'ils sont très nombreux maintenant. Pour beaucoup, peut-être pour certains produits chimiques, la preuve n'a pas été apportée qu'ils soient perturbateurs endocriniens. Mais je pense que globalement, la plupart des composés, d'ailleurs simples, aromatiques, puisqu'on retrouve une similitude de structure avec les hormones naturelles, donc doivent être des perturbateurs endocriniens. Je pense qu'ils sont au moins une centaine, peut-être plus. Mais bon, on connaît surtout ceux qui sont les plus fréquemment utilisés, comme vous avez cité le bisphénol A, les phtalates, parabènes, les polybromés, polychlorés, qui constituent aussi la base, par exemple, du téflon, et voilà, donc tout ce qui constitue en général des polymères. Polymères qui sont utilisés pour beaucoup dans les emballages, dans l'alimentaire, mais également dans du matériel médical comme les phtalates.
Alors nous allons y venir au cours de cette émission. Dans le rapport de l'Académie nationale de médecine, il y a donc une liste qui n'est, j'imagine, pas exhaustive des produits où l'on retrouve justement ces perturbateurs endocriniens dont on vient de parler à l'instant. Alors bien sûr, tout ce qui est produits plastiques, emballages alimentaires.
Oui, emballages alimentaires, tout ce qui assouplit aussi les polymères, enfin donc toujours les emballages aussi, ou les matériels médicaux à base de polymères, parce que c'est leur propriété. En fait, il y a eu un rapport d'ailleurs de l'INSERM en 2011, un rapport de toxicologie qui a fait un bilan global des principales familles et qui a montré leur utilisation dans la vie courante. Le problème, c'est qu'ils sont tous utilisés dans la vie courante et dans la vie quotidienne.
Alors justement, dans cette vie quotidienne, il y a des choses auxquelles on n'aurait pas pensé retrouver pour nous, hein, comme un des mortels, retrouver ces produits, notamment dans les lunettes et les lentilles de contact.
Tout à fait, ça c'est vrai. Moi aussi, je veux dire, j'ai découvert un petit peu en même temps que vous, on parlait beaucoup plus d'emballage alimentaire, de plastique, mais c'est vrai que les lunettes, même dans certains accessoires dentaires, enfin, il y en a vraiment partout. On est entouré de perturbateurs endocriniens.
Également, donc, vous parliez de tout ce qui était produits médicaux. Les phtalates, pour parler d'eux, représentent 30 à 50% de la composition des tubes et poches de perfusion et de nutrition,
oui,
des cathéters et des gants médicaux et des sondes.
Tout à fait exact, oui. parce qu'ils donnent une certaine souplesse, donc une possibilité d'utilisation de ces poches. Mais on verra par l'étude cohorte de l'Institut national de veille sanitaire que justement, lorsqu'on fait des prélèvements après l'utilisation de matériel médical, on retrouve un taux augmenté de ces phtalates en particulier. Donc c'est bien la preuve qu'ils sont là, ils sont là.
Justement, alors venons-en à ces effets, donc les effets suspectés et avérés. Il y a des choses que l'on connaît, d'autres que l'on suspecte. Voilà, on n'a pas encore de preuves exactes, on peut faire des corrélations. Je le disais en préambule de cette émission, il y a donc un rapport qui a été publié en novembre 2011, rapport de l'Académie nationale de médecine qui s'intéresse bien sûr aux relations entre ces perturbateurs endocriniens et les cancers, des cancers hormonaux, donc cancer des testicules, cancer du sein, pour ne citer que ces deux-là. Et puis donc, Vous travaillez également dans un groupe de travail sur les parabènes dans le médicament. Parabènes qui est donc un autre perturbateur endocrinien suspecté.
Tout à fait. Et les
médicaments. Quelles sont les études qui sont faites sur l'animal et sur l'homme? Puisque je crois savoir que les choses sont bien différentes entre ce que l'on découvre sur l'animal et sur l'homme.
Alors, le grand problème, justement, c'est que la plupart des études qui ont été faites sur ces perturbateurs endocriniens, je parlerai du BPA, mais on pourrait parler aussi des parabènes, l'ont été faites souvent chez l'animal. En plus, pas toujours avec des voies d'administration qui sont les mêmes que chez l'homme, puisqu'on a fait beaucoup d'études par voie d'injection. Enfin, alors que chez l'homme, c'est plutôt la voie orale qui est souvent la voie d'absorption ou la voie percutanée. Donc, c'est vrai qu'on est arrivé à des conclusions chez l'animal qui sont sans conteste des perturbations, développement hormonal, certains cancers, certaines malformations. Chez l'homme, c'est beaucoup plus difficile à faire parce que d'abord, on peut pas faire des études de toxicologie, administrer des doses fabuleuses de parabènes. Ça serait pas très éthique, enfin, de parabènes, de perturbateurs. Ça ne serait pas très éthique. Donc, on est un peu limité dans les études et on est obligé d'avoir des études épidémiologiques. Alors, le problème, en ce qui concerne, par exemple, ça, c'était la grosse question, l'apparition de cancer suite à l'utilisation de ces perturbateurs, c'est que souvent, il faut 15 à 20 ans pour qu'un cancer se déclare s'il y a un effet d'un perturbateur. Je reprendrai l'exemple qui a fait couler beaucoup d'encre du distilbène ou stilbestrol, qui a été administré dans les années 50 parce qu'on pensait à l'époque que l'absorption de cette molécule chez les femmes enceintes limitait les risques de grossesse prématurée. Et finalement, c'est en 1971 que l'on a commencé à s'apercevoir qu'il était la cause d'adénome du vagin à cellules claires. Donc, vous voyez, 20 ans d'écart. Bon. Et là, on peut dire que la constatation était peut-être plus facile puisque le distilbène était utilisé à forte dose chez la femme, enfin, par administration. Les perturbateurs endocriniens, c'est beaucoup plus sournois puisque ce sont des petites quantités qui sont absorbées tous les jours.
À long terme?
Oui. Tout à fait.
Petite dose, mais tout le temps.
Petite dose, mais tout le temps. Disons qu'on en absorbe tous les jours, tous les jours. Bon, alors il y a fort heureusement quand même une part importante de métabolisme et d'élimination, parce que sinon on serait submergé par les quantités que l'on aurait au sein de notre organisme. Mais en dépit de ce métabolisme, il y a quand même accumulation de sous et composés. Ce qu'on pense actuellement, c'est que c'est peut-être pas seulement un perturbateur endocrinien qui cause des problèmes de santé, mais c'est cette accumulation justement de toutes ces molécules qui sont en même temps présentes. Il y avait une étude qui est parue dans un périodique américain l'an dernier, en 2011, une étude qui avait été faite chez les femmes enceintes sur une période d'une dizaine d'années, qui a montré que chez ces femmes enceintes, il y avait à peu près 30 à 40 perturbateurs endocriniens dans leur sang. Donc, vous voyez, et l'étude de l'Institut national de veille sanitaire qui a commencé cette étude de cohorte ELF a également déjà perçu qu'il y avait la plupart de ces perturbateurs au sein de nos organismes. Donc voilà, c'est une question de petites doses, mais de multiples petites doses et de petites doses quotidiennes.
Alors vous faites la référence, vous faites la comparaison plus exactement avec le cas du distilbène, oui, qui avait été suspecté très longtemps avant d'avoir fait les preuves 20 ans après de ce que cela pouvait provoquer. Depuis 1987, la corrélation a été faite aux États-Unis entre justement ces cancers hormonaux et le BPA, c'est-à-dire le bisphénol A. Donc, oui. Entre 87 et aujourd'hui, il s'est passé pas mal de temps. Est-ce que ça permet quand même d'avoir un recul maintenant qui commence à être assez important et nécessaire pour pouvoir se prononcer sur ce qui est du bisphénol A?
Alors, bon, c'est vrai que le bisphénol A, d'après notre rapport avec l'Académie de médecine, c'est peut-être celui qui présente plus de risques potentiels d'apparition de cancer. Ceci étant, la question continue d'être discutée et j'ai vu récemment que la Food and Drug Administration se refuse toujours de proscrire le bisphénol A dans les emballages alimentaires. Vous voyez, c'est une décision qui a été prise, je crois, il y a 2 ou 3 mois. Ils considèrent que le risque n'est pas démontré. Donc, c'est là où les questions sont polémiques, puisque je pense que pour nous, on a bien écrit qu'il y avait un risque potentiel, mais potentiel, ça n'est pas avéré.
Pourtant, donc, en France, le bisphénol A devrait disparaître dans les emballages alimentaires. Alors, à partir de 2013 pour certains produits qui concernent la puériculture, et puis 2014 pour ce qui est des emballages alimentaires.
Tout à fait, c'est ce qui a été voté en première loi par la nouvelle droite à l'Assemblée nationale. Ceci étant, ce qui est inquiétant, c'est par quoi va-t-on substituer le bisphénol A ? Pour le moment, bon, le problème des biberons a été résolu en son temps, et je pense que c'était là une priorité, puisqu'on s'adresse particulièrement aux nouveau-nés. Et je pense que le retour au biberon en verre, le Canada d'ailleurs avait été précurseur en la matière, puisque c'est le Canada qui est le premier à voter l'interdiction des biberons en bisphénol A. Bon, la France y est venue sous l'impulsion de la mairie de Paris, d'ailleurs, faut le signaler. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que moi, j'ai lu des articles sur les substitutions du bisphénol A. Lorsqu'on propose un certain nombre de produits, je ne veux pas entrer dans les noms chimiques, parce que ça serait barbare pour l'auditeur, mais je ne suis pas sûr que ces produits par lesquels on tenterait de substituer le bisphénol A aient moins de risques toxiques. C'est là où il y a un problème à résoudre, par quoi remplacer ce qu'on veut interdire.
Parce qu'actuellement, on remplace déjà le bisphénol A. Il suffit d'aller dans un magasin, on récupère son ticket de caisse, et vous retournez le ticket de caisse, c'est garanti sans bisphénol A.
Ça, c'est vrai pour les tickets de caisse, ça, je sais, parce qu'effectivement, on avait montré qu'il y avait beaucoup plus de cancers déclarés chez les caissières de supermarchés qui touchaient des tickets contenant du bisphénol A à longueur de journée. Bon, mais ça, c'est le problème. On l'a remplacé par autre chose. Mais le papier, c'est peut-être plus facile. Il y a la cellulose. On peut faire du papier simple, pas thermolabile ou je sais pas. Mais les emballages alimentaires, pour le moment... Alors, il y a des choses que l'on sait quand même et on peut avertir le public. C'est qu'on sait quand même que le relargage, par exemple, du bisphénol A à partir des plastiques est favorisé par la chaleur, par les micro-ondes.
Donc ne pas mettre, par exemple, son emballage plastique au micro-ondes, même s'il est fait pour, même si l'emballage est fait pour aller au micro-ondes, vaut
voilà.
Mieux éviter de
Moi,
le mettre.
Moi, personnellement, depuis que j'étudie la question, bon, il m'arrive de manger des surgelés, je ne fais jamais chauffer mes surgelés dans l'emballage plastique, percé de trous, comme on le dit. Je préfère prendre un plat spécifique micro-ondes, verser le contenu dedans et le mettre au micro-ondes. Parce que c'est vrai que là, il y a un risque d'absorption augmentée du bisphénol A. Donc, vous voyez, des précautions simples, élémentaires. Et puis, bon, il faudrait, mais ça, c'est un problème citoyen, il faudrait limiter le nombre d'emballages alimentaires. Malheureusement, je vais faire les courses moi-même. Parfois, dans les supermarchés, je m'aperçois qu'on en trouve de plus en plus. Les tomates maintenant emballage plastique, les salades emballage plastique, la mâche emballage plastique. Enfin, je veux pas faire une énumération de l'alimentation emballage plastique, mais je pense que nos industriels agroalimentaires multiplient beaucoup trop ce type d'emballage. Voilà. Je pense qu'autrefois, même les cagettes en peuplier étaient peut-être plus saines que tous les emballages qu'on nous propose aujourd'hui. Mais ça, c'est une réflexion personnelle. Il faut quand même conseiller aux femmes enceintes de surveiller leur alimentation, proscrire le plus possible ces emballages, éviter de chauffer au micro-ondes les aliments, vous voyez, au moins en attendant des réflexions de bon sens, on va dire.
Donc c'est en attendant d'en savoir plus.
Je pense que ce qui est important, c'est que les études se multiplient. Et là, on peut être un petit peu inquiet parce qu'en France, on n'a jamais une politique très suivie. On dit qu'il faut faire des études, en particulier savoir au niveau hormonal, où ces substances agissent, parce que bon, perturbateurs endocriniens, c'est un terme vaste, mais quels sont les récepteurs, quels sont les médiateurs impliqués dans ces phénomènes? Et je pense qu'il y a des études à mener. Aux États-Unis, il y en a beaucoup. En France, il y en a très peu. Je ne pense pas que ça soit malheureusement la priorité de nos organismes de recherche non plus de financer ce genre de recherche. C'est un petit peu dommage parce que vraiment l'INSERM devrait s'intéresser. Bon, il s'intéresse, je ne dis pas qu'il ne s'intéresse pas, mais mettre des moyens pour développer des recherches dans ce domaine.
Alors effectivement, vous parliez de ce problème de substitution. Et bien sûr, on voit bien tous ces emballages plastiques. Alors on peut se dire que pour les bouteilles en plastique, on peut peut-être les remplacer de nouveau par les emballages en verre, par les bouteilles en verre. Mais il se pose la question des canettes de soda, des conserves qui contiennent aussi
un revêtement interne, le phtalate. Non, c'est un problème difficile à résoudre, mais je pense quand même que les industriels prendront conscience qu'il y a nécessité à faire évoluer, parce que tôt ou tard, on arrivera à des interdictions, tôt ou tard.
Alors justement, avançons sur ces interdictions. On a parlé du bisphénol, il y a du bisphénol A. Parlons d'un autre composé qui sont les phtalates. Alors les phtalates sont interdits depuis 2005 dans la fabrication de jouets pour enfants et d'articles de puériculture, cela au niveau européen. Qu'en est-il pour le reste des produits Claude Monneret ? Aujourd'hui, les phtalates sont, on va dire, dans le collimateur, devraient être interdits, mais ce n'est pas encore le cas.
Alors d'après mes informations, ils sont dans le collimateur. Ils sont dans le collimateur de nos gouvernants. Je pense que les phtalates sont fortement suspectés d'être à l'origine d'un certain nombre donc, de troubles. On a parlé de cancer, mais il faudrait parler aussi, peut-être pas évoquer les malformations congénitales à la naissance, parce que c'est vrai que... Je reviens un petit peu sur un communiqué de l'Institut national de veille sanitaire qui a fait une enquête ces dernières années dans le sud-ouest et qui a montré qu'il y avait une augmentation, bon, bien sûr, du cancer du testicule en particulier, mais également de cryptorchidie, vous savez, c'est la descente des testicules chez l'homme, et puis des hypospadias, c'est-à-dire des pénis mal formés. Et il y a des augmentations d'environ 2% pour chacun de ces cas, donc... Ça, c'est un problème aussi qui est là, quoi. C'est qu'il y a apparition de ces malformations et une augmentation constante.
Est-ce que de la même manière pour les cancers, on fait la corrélation ou est-ce que le lien est prouvé ?
Alors, le lien n'est pas prouvé. Le lien n'est pas prouvé. On fait une corrélation, comme dans toute étude épidémiologique, mais le lien n'est pas non plus prouvé. Ce sont des expériences qui sont très difficiles à mener. Je pense que les cohortes qui sont lancées, il y a une cohorte F lancée par l'Institut national de veille sanitaire avec l'Institut national des études démographiques et l'INSERM et d'autres organismes qui a pour but de suivre les nouveau-nés de 2011 jusqu'à leur âge adulte avec les habitudes alimentaires, les consommations, tout. Je pense que ça apportera un éclairage nouveau. Mais voyez, il faudra attendre l'âge adulte d'un enfant né en 2011. Donc on est loin d'avoir la réponse. Et est-ce qu'on aura toutes les réponses ? Je suis pas sûr. Alors aux États-Unis, il y a des études qui se développent aussi, dans les autres pays anglo-saxons aussi. Mais c'est toujours très long et c'est très difficile. Toujours dans la mesure où ce sont des substances qui échappent aux règles habituelles d'études toxicologiques. Bon, une substance, elle est toxique, elle l'est pas. Si elle est toxique, eh bien, on va administrer le dixième de la dose toxique. On va considérer que c'est la dose journalière tolérée. Là, on est dans une inconnue parce qu'on a des doses quotidiennes qui ne sont pas toxiques. Mais est-ce que ces doses quotidiennes mises bout à bout et ensemble de tous ces produits, quels sont leurs effets au bout du compte? C'est toujours la difficulté.
Alors, vous parliez justement d'études menées aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, de manière générale. Il y a également des études qui sont menées en France. Et puis, justement, sur ces études menées en France, il y a eu trois équipes françaises qui ont publié en mars 2012 dans la revue Human Reproduction. Donc, a publié un article qui, justement, à travers leurs études, démontre que les phtalates entraînent une baisse de la fertilité dans les deux sexes, hein, que ce soit homme ou femme.
Oui, ça c'est aussi, c'est un des effets suspectés. Plus que suspecté.
Plus que suspecté, puisque l'article.
En tout cas, chez l'animal, ça c'est sûr. Les expériences chez l'animal ont montré qu'il y avait soit d'ailleurs une inversion de sexe, enfin je dirais presque des animaux mâles deviennent femelles, inversement selon les perturbateurs endocriniens, et puis des anomalies de formation. Mais les malformations chez l'animal, ça a été parfaitement démontré. Bon, chez l'homme, effectivement, c'est plus difficile, comme toujours, je vous dis, pour toujours les mêmes raisons. Quoi. Mais je pense qu'on a de bonnes raisons de suspecter de plus en plus ces produits. Je dirais peut-être que pour moi, les parabènes, puisque c'est un peu la question sur laquelle je me suis plus tourné actuellement, me semble moins dangereux que les autres. Parce que bon, ça a été mis en avant aussi, parabènes et médicaments. Vous savez, ça fait un scoop dans le journal Le Monde. On a démontré qu'il y avait 400 médicaments qui contenaient des parabènes. Ceci étant, il s'agit d'une utilisation qui est bien encadrée, puisqu'il y a des pourcentages admis à ne pas dépasser. C'est pas dans tous les médicaments, loin de là. Souvent des colliers, des solutions qui risquent de s'altérer avec le temps. Et de se contaminer, on va dire, par des champignons ou des bactéries. Et bon, un médicament, sauf chez le malade, je dirais, chronique, on va prendre un médicament 4-5 jours, on arrête. Alors que le bisphénol A et les phtalates, vous allez en prendre tous les jours. Donc c'est pour ça que je mettais un petit peu sur une autre échelle le problème des parabènes, même s'il faut convaincre terme, nos collègues de l'industrie pharmaceutique, d'essayer de les limiter dans l'usage.
Alors, oui. Justement, on va terminer sur les parabènes. Alors, on les trouve dans les médicaments, comme vous venez de nous le dire. Ce sont des conservateurs, en fait, les parabènes.
Ce sont des conservateurs qui empêchent le développement et de bactéries et de champignons.
On les retrouve aussi dans les cosmétiques, hein, maintenant régulièrement. C'est aussi un élément vendeur, c'est inscrit sans parabènes.
Je dirais que l'élément vendeur, maintenant, serait plus sans parabènes.
Sans parabènes, voilà, justement. Donc, cet élément vendeur, c'est de dire que ça ne contient pas de parabènes. Et puis également, on retrouve les parabènes dans les aliments. Et alors, il faut le savoir, ce n'est pas forcément très clair. Et là, peut-être que vous avez aussi votre avis sur la question. Dans les aliments, ça ne s'appelle pas parabènes, ça s'appelle E214 et E219. Alors, quand vous vous intéressez de près aux parabènes et que vous regardez la composition des aliments que vous pouvez acheter en supermarché, vous ne savez pas forcément que E214 et E219 égale parabènes.
Alors ça, c'est vrai que ce sont les habitudes de l'industrie agroalimentaire, même pour les colorants, c'est pareil, vous avez des noms de code comme ça, et je pense que là, ce qu'on préconisait avec l'Académie de médecine aussi, c'est un étiquetage plus lisible pour le consommateur, parce que c'est vrai que le consommateur, mais dans les produits cosmétiques, c'est pareil, c'est marqué sous cette dénomination de E, il n'y a jamais marqué parabène en toutes lettres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand même que les parabènes, d'abord, c'est pour ça que je nuance un petit peu, les premiers éléments de cette chaîne, comme le méthylparabène, sont des composés naturels qui existent à l'état naturel dans des fruits, qui empêchent justement ces fruits de s'oxyder trop rapidement, d'être envahis par les champignons. On parle beaucoup de produits chimiques, c'est vrai que ceux qui sont utilisés dans l'industrie sont fabriqués chimiquement, mais ce sont des analogues de produits naturels. Le méthylparabène est un produit tout à fait naturel, et l'acide qui lui a donné naissance est aussi un acide ubiquitaire, c'est-à-dire répandu partout et naturel. Et bon, une étude récente a montré que ces parabènes, même dans les cosmétiques, étaient très rapidement hydrolysés au passage de la barrière cutanée par des estérases et relibérés l'acide de base. Ceci étant, il y a des études contradictoires là aussi. Il y en a qui vont vous démontrer qu'on retrouve des parabènes dans les tissus. Alors il y avait une publication qui a fait beaucoup de bruit d'une clinicienne, Philippe Ardarbre, qui avait publié il y a quelques années la présence de parabènes dans des cancers du sein. Elle a republié en 2011 une nouvelle étude que j'ai étudiée de près. Elle a étudié 40 mastectomies, donc des tumeurs extraites, donc cancer du sein.
Dans liées différents... notamment à l'utilisation de déodorants, j'imagine.
Ouais, de différentes zones. Et effectivement, elle a retrouvé des parabènes dans la plupart de ces cancers. Ceci étant, je n'ai pas vu qu'elle ait mis une relation très nette entre l'utilisation quotidienne de déodorants et la présence de ces parabènes, puisque parmi ces femmes qui avaient été traitées, enfin étudiées, il y en avait 7 d'entre elles qui n'avaient jamais utilisé de déodorant corporel. Donc elle ne conclut pas d'ailleurs, elle dit simplement qu'il y a une omniprésence de parabènes dans les tissus. Alors c'est vrai qu'on peut s'étonner d'études contradictoires, vous voyez, elle trouve des parabènes dans les cancer. Et l'étude menée récemment par un laboratoire de toxicologie en France dit que dès qu'on administre des parabènes par voie orale ou par voie percutanée, on va dire, eh bien, il y a hydrolyse immédiate. Le temps de demi-vie de ces parabènes est très court. Alors... Donc là encore, ambiguïté entre des études scientifiques et puis des résultats cliniques.
Autre ambiguïté, donc vous nous le disiez, hein, une expertise de l'INSERM assez récente de 2011, qui a été confirmée d'ailleurs par une autre étude de l'AFSAPS, qui montre que chez le rat, il y a absence d'effets toxiques du parabène sur cet animal. Et donc vous nous avez expliqué aussi que ces parabènes s'éliminent très rapidement, ils ne restent pas très longtemps. Il faut aussi tenir compte des faibles doses employées. Et alors je dis ambiguïté parce que, et parallèlement, pourtant, dans une note, Claude Monneret, vous écrivez qu'il est quand même recommandé pour les personnes à risque de s'abstenir d'absorber de tels composés. Alors,
non, il n'y a pas contradiction, c'est parce que quand on fait une étude, bon, je vais faire l'avocat du diable, mais on fait une étude sur un rat juvénile, on va prendre une population de rats, qui est un phénotype tout à fait unique, on va administrer un produit qui est un parabène, donc un perturbateur endocrinien, et on regarde si ce rat juvénile, puisqu'il continue à développer ses organes pendant sa croissance, va présenter des malformations congénitales ou autres. Et là, on trouve rien. Mais on est dans un cas d'études scientifiques très sérieuses. Mais on est dans un cas où on a un phénotype, une population. Vous prenez un jeune enfant, il va avoir un phénotype qui peut être différent. Tous les êtres humains n'ont pas le même phénotype. Il peut être plus réceptif à ces perturbateurs endocriniens. Il va pas avoir le même contexte d'environnement. Vous voyez, c'est pour ça que l'étude, elle est sérieuse, elle est bien faite. Je crois que les résultats sont sans discussion, mais... La vie quotidienne, moi je pense que c'est la multiplicité de ces produits en même temps qui fait que... Donc c'est pour ça quand même que raison de bon sens est de dire évitez de prendre ces médicaments qui contiennent des parabènes au moment où vous êtes enceinte ou chez votre nouveau-né. N'en rajoutez pas.
Alors encore faut-il savoir que dans les médicaments prescrits par votre médecin, il y a des parabènes, et à savoir si vous, oui ou non, malgré la prescription du médecin, vous allez prendre le médicament. Ça devient compliqué quand même.
D'abord, il y a des médicaments qui en ont. Les colires, bon, je pense pas que ça soit un médicament des plus utilisés. Il peut arriver chez le nouveau-né, mais bon. Il y a des solutés, ça, les solutés buvables, ça peut être plus à risque. Bon, il y a des comprimés. Là, je pense quand même qu'il y a un message qu'on voudrait peut-être faire passer aux industriels de la pharmacie, éviter de mettre des parabènes dans les comprimés.
Et développer les doses uniques, c'est ça?
Oui,
les unités,
ou développer des doses uniques. Mais les comprimés, bon, pourquoi on met des parabènes? C'est parce que avant même la mise en forme du comprimé, on se trouve en présence d'une solution de principe actif, et c'est là où il y a des risques, effectivement, de contamination. Mais si on travaille dans des bonnes pratiques pharmaceutiques en milieu stérile, je pense qu'on peut éviter l'utilisation de parabènes dans ces cas. Et puis, vous venez de le citer, je crois que les doses uniques... D'ailleurs, j'étais à un salon de cosmétiques et d'emballage. J'étais invité à parler justement de ce sujet il y a 6 mois. J'ai vu que bon nombre d'industriels développent comme ça des formes à doses uniques. Les colliers, c'est déjà maintenant très pratiqué. Ceci étant, il y a d'autres formes. Il vaut mieux utiliser les parabènes à très faible dose plutôt que de risquer une infection bactérienne ou fongique.
On arrive au terme de notre émission. Dernière question, Claude Monneret. Justement, on parlait des phtalates et les parabènes donc, sont dans le collimateur. Hein. Une loi adoptée en 2011 par l'Assemblée nationale vise à interdire l'utilisation des phtalates et des parabènes. Donc, il n'y a pas encore eu de décret d'application, effectivement. Alors, justement, est-ce qu'il faut une loi pour que, à l'image de l'industrie pharmaceutique, puisque c'est l'exemple que vous nous avez donné, eh bien, il y ait des dispositions qui soient prises et voilà, qu'il y ait une réaction, une prise en considération de ces risques de perturbateurs endocriniens?
Écoutez, je ne suis pas législateur, mais c'est vrai qu'il faut une certaine pression quand même à un moment donné, parce que sinon ça peut continuer éternellement. Je pense que cette loi qui a été votée, elle sera appliquée en 2014, sauf si on n'a pas trouvé de substitut. Il y a quand même une restriction. Je crois savoir que c'était indiqué dans ce qui a été décidé. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'inciter nos collègues de l'industrie pharmaceutique de faire une étude dans le domaine qui est le nôtre et de les inciter à changer leurs habitudes. Ça ne sera pas facile, mais je pense qu'ils prendront conscience que l'opinion publique est quand même maintenant très alertée sur tous ces problèmes et donc il faut aussi en tenir compte. Je pense que... On ne vit plus dans l'époque où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas tous les moyens de communication actuels. Et je pense que sous la pression de l'opinion publique, il faudra bien évoluer. Il faudra évoluer. Alors une loi, peut-être que ça, c'est une épée de Damoclès en plus sur la tête des industriels, mais pourquoi pas? Pourquoi pas la loi?
Donc pour terminer sur notre émission, vous dites à nos auditeurs, regardez les étiquettes, regardez la composition de vos aliments, des médicaments, de tout ce qui vous environne. Et puis notamment, faites attention si vous
mais
êtes
Mais je leur dis regardez, mais je sais que
enfants.
Pour eux ça sera pas facile parce que les étiquetages ne sont pas toujours lisibles. Mais enfin bon, je pense que les principales règles de sagesse que j'ai soulignées sont faciles à suivre, au moins celles de base, voilà.
Je vous remercie Claude Monneret
d'être
venu nous voir.
Merci
et
pour
puis,
votre invitation.
J'espère à bientôt pour une prochaine émission. Merci à vous.
Merci, au revoir.